France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Voici la question. Qu'est-ce qu'un anthropologue peut bien faire dans un champ où pâture un troupeau de blondes d'Aquitaine? Peut-on appliquer les règles et les méthodes de la sociologie aux animaux? Après l'histoire animale du monde, nous poursuivons notre cycle sur les sciences humaines et les animaux dans le sillage de Jane Goodall et de Diane Fosset qui se sont intégrées en observatrices dans des sociétés d'animaux sauvages. Tentons ce soir une approche qui ne soit pas celle de l'éthologie mais bien de la sociologie. Constituons la société. Rapport proie-prédateur, c'est toutes ces questions qui sont remises en cause, réinterrogées grâce à votre travail, Florent Colleur. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un plaisir de vous recevoir, vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'université de Tours et vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Les sociétés animales, un regard sociologique » qui est paru chez Armand Collin.
Les filles, rumine, la petite tapote aux fesses, oui.
J'ai grandi avec les vaches pas loin. Il y a les chevaux, il y a les chiens, les chats, enfin, c'est les animaux. Depuis que je suis petite, je suis convaincue qu'on peut faire un lien avec eux, on peut discuter avec eux, même si c'est pas discuter comme avec un humain. Un tout petit exemple, c'est ma mère qui me l'a transmis, c'est quand il y a une abeille dans la maison, où on tape partout, on fait tout pour qu'elle sorte, où on se pose, on lui dit « Attends, je vais t'ouvrir la fenêtre, et c'est là qu'il faut sortir. » Et quand on fait ça, elle sort.
Extrait d'un documentaire diffusé sur Arte, c'était la voix de Colline Lacaze. Elle élève, elle, des salers dans le département du Lot. Et vous, Florent Colleur, vous vous êtes intéressé à des blondes d'Aquitaine. Vous y avez passé avec elle, auprès d'elle même, j'allais dire, 4 mois, d'avril à juillet 2010. Qu'est-ce qu'un sociologue peut faire auprès d'un troupeau de vaches ?
Alors, premièrement, le sociologue est complètement désespéré par l'actualité qui précède cet entretien. Qu'est-ce qu'un sociologue fait dans un troupeau de vaches ? Eh bien, il décide qu'il en a assez de parler des animaux hors sol, enfin, de parler de manière hors sol des animaux, et qu'à un moment, il faut se confronter à la réalité d'une société animale. Il y a plusieurs attendus là. C'est d'abord, est-ce qu'il est possible, que, comme vous l'aviez suggéré, d'observer une société qui est sans langage, entre guillemets, puisque les vaches ont de multiples langages, grâce à des glandes, des humeurs, plein de choses. Et ça, il faut apprendre à le découvrir progressivement. Donc j'ignorais ce qu'étaient les vaches, bon, sauf de loin. Et j'ai appris d'abord quel était leur univers perceptif. C'est ce que Huxley appelle le milieu, c'est-à-dire le monde tel qu'il est perçu par un animal et ce qui dans ce monde fait sens pour lui. Puis je me suis familiarisé avec leurs expressions corporelles. Les vaches n'ont pas vraiment d'expression faciale, c'est plus compliqué qu'avec un chien ou un chat. Pour anticiper leurs mouvements, et puis on se familiarise au fil du temps, et finalement on touche à l'intimité lorsqu'on s'aperçoit qu'une vache semble particulièrement vous apprécier.
Je vous cite, Florent Colleur, vous écrivez « J'ai vécu l'expérience, celle de vaches allaitantes que j'ai observée sur une période, je le disais, de 4 mois. Il ne s'agissait pas d'une étude éthologique, mais d'une expérience d'observation participante, comme le fait tout anthropologue prenant ses quartiers dans une communauté et dans la vie des gens, dormant chez eux, discutant avec eux, participant à leur vie quotidienne, au foyer, comme en société. Vous avez donc participé à la vie des vaches ?
Non seulement j'ai participé à la vie des vaches, mais de manière plus profonde, j'ai participé à la construction de leur société qui est transitoire, car le destin d'une vache, malheureusement, est assez tragique. Dans la mesure où elles sont réunies un peu de manière aléatoire par l'éleveur en avril, quand elles sortent de stabulation, l'éleveur choisit deux vieilles, deux jeunes, deux entre deux âges et un taureau, et les place dans un champ. Et ces vaches n'ont pas forcément d'affinité. Et ce que j'ai vu après les premiers jours où il y a des interactions parfois agressives, que je notais tout à fait bêtement, et en plus en utilisant les numéros des oreilles, des boucles d'oreilles, vous voyez. Eh bien, au bout d'une semaine, les vaches font ce que fait tout être normalement constitué, c'est-à-dire qu'elles construisent une société vivable, où elles peuvent éprouver du plaisir. Et donc, on voit s'établir des amitiés. On voit s'établir aussi l'exclusion de certaines qui sont trop bougonnes. Un cas intéressant, c'était une vache qui détestait les humains, mais qui était en quelque sorte le foyer d'affect que toutes ses compagnes recherchaient à l'heure de la sieste, à l'heure de la rumination.
C'était la vache fédératrice.
C'était la vache fédératrice qui a failli m'encorder, donc elle m'a pas fédéré moi. Mais enfin, progressivement, quand on commence à anticiper les situations de danger, eh ben après, on s'assoit au milieu du troupeau, on les accompagne à mesure qu'elles broutent. On tombe dans des états contemplatifs, d'autres fois on s'ennuie, mais comme dans tout terrain anthropologique.
Alors on va suivre le chemin que vous avez tracé, j'allais dire, pour participer à la vie de ce troupeau de blondes d'Aquitaine. Peut-être l'une des premières choses que vous avez faites, vous mentionniez tout à l'heure le numéro qui est noté sur leur oreille. Vous leur avez donné un prénom à ces vaches. Pourquoi un tel changement? Pourquoi un choix comme celui-ci?
Parce que quand vous notez 7293 domine 7632 et que 15 jours après vous observez à nouveau la 7693, il n'y a pas de continuité. Sauf à faire des tableaux de correspondance. Et puis, bon, c'est naturel, on se prend d'affection, on donne des prénoms, et voilà. Et les éleveurs ont adopté mes prénoms par la suite, d'ailleurs.
La deuxième chose que vous avez faite, mais ça c'est plus normal, c'est que vous avez pris le temps. Il faut prendre le temps de s'immerger, de comprendre. Comment vous avez fait lorsque, parce que vous l'aviez dit, vous ne connaissiez pas grand-chose hein, aux vaches, à leur fonctionnement, à ce qu'elles sont comme êtres biologiques. Comment vous avez fait justement pour appréhender leur code?
Alors d'abord, comment j'ai fait? Par immersion et simplement par l'observation, on voit ce qui se passe, on anticipe, on comprend les situations de tension ou au contraire les situations pacifiques. Et pour ce qui est de la constitution du savoir éthologique sur les vaches, bon, en l'occurrence les études éthologiques, rares sont les études éthologiques, qui prennent le temps d'observer des vaches pendant plus de 15 jours. Ça, donc évidemment, en 15 jours, les vaches, elles n'ont pas vraiment le temps de construire une normalité sociale. Après, pour ce qui est des perceptions, etc., ça, je l'ai appris au fur et à mesure, les différences dans la perception du mouvement, les champs de vision, le fait qu'elles communiquent par toutes sortes d'odeurs, les glandes interdigitales, les glandes temporales et d'autres, et qu'elles donc elles sont en permanent, d'où l'horreur que c'est pour elles d'être dans un abattoir, hein, puisque l'odeur d'urine, d'excréments, elles sentent les hormones de stress, le cortisol, et par conséquent, j'ose même pas imaginer ce qu'elles éprouvent lorsqu'elles sont dans la queue.
Se dit tout de suite, Florent Kohler, en vous lisant, en vous écoutant par ailleurs, comment contourner, éviter même le risque de l'anthropomorphisme? Comment éviter de calquer, de plaquer des sentiments humains, des impressions humaines sur ce qu'elles vivent? Je vous donne un exemple. Vous parliez tout à l'heure du moment où vous avez failli vous faire encorner et vous l'interprétez de la façon suivante. Vous dites qu'il s'agissait peut-être, sans doute même, d'un avertissement à votre égard. Comment est-ce que là encore on évite de plaquer un sentiment, une réaction humaine à ce qui s'est réellement passé?
Oui, alors je passe quand même une longue introduction à expliquer que l'anthropomorphisme n'est pas le diable et que le diable, c'est plutôt l'anthropocentrisme. J'utilise un système de pensée que Éric Baratet, que vous avez reçu, utilise aussi, un cadre qu'il appelle l'anthropomorphisme de questionnement et que des éthologues américain, Gordon Burghardt, entre autres, appelle l'anthropomorphisme critique, qui veut que, en prenant acte du fait que le monde perçu par un animal diffère totalement d'une autre, on peut toutefois approcher au plus près de ce monde en, non seulement, dit Burghardt, chaussant les chaussures de l'animal, mais aussi en marchant avec, c'est-à-dire en comprenant ce qui, dans l'univers de l'animal, est saillant, en essayant de voir à travers ses yeux et ses propres cadres de ce qui l'intéresse, etc. Et puis, il y a quand même des constantes. Bon, cette histoire d'anthropomorphisme est exaspérante, parce que là, je parlais avec un voisin, je lui expliquais ce que je faisais, il me dit...
C'est normal de vous poser la question.
Oui,
c'est
non,
la
mais,
fois
mais
qu'on
bien
parle
sûr.
De celui
non, bien
des
sûr.
animaux à ce micro.
Ah oui, non, mais je vous en veux pas du tout, au contraire. Non, mais un voisin me disait... Je lui parlais de la joie qui est évidente chez le chien. Il me disait, oui, mais qui te dit que la joie est qualitativement la même que la nôtre? Et je lui dis, oui, mais qui me dit que ta joie est qualitativement la même que la mienne? Si je veux pas faire d'égomorphisme, je peux pas présupposer que ta joie est la même que la mienne. Bon, alors partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Si on rentre dans de l'absurde, c'est simple. Les émotions proviennent de systèmes cérébraux et autres qui sont antérieurs à l'apparition du néocortex. C'est-à-dire ce qui fait de nous les espèces les plus intelligentes qui arrivent à détruire une planète en très peu de temps. Toutes les émotions, notamment les émotions sociales, elles étaient présentes bien avant l'apparition de l'espèce humaine. Et notre espèce s'est constituée, nos cousins malheureux, se sont constitués en construisant peu à peu le langage, leur normalité sociale. Et le langage est venu se greffer là-dessus. Ça, c'est le néocortex. Mais tout ce qui est les émotions sociales, la honte, l'envie, la fierté, la jalousie, l'amour, l'amitié, tout ça, les animaux sociaux sont équipés pour l'éprouver.
Je voudrais qu'on essaye avec vous, Florent Kohler, de comprendre peut-être les règles générales que vous avez discernées, dessinées, s'agissant de cette société de blondes d'Aquitaine. Vous avez remarqué, donc, durant ces 4 mois, que des groupes d'amitié se formaient. Racontez-nous cela.
Alors, c'était pas des amitiés exclusives, c'était plus des pôles d'attraction de vaches particulièrement tendres, Eva et Martha. Déjà quand elles étaient ensemble, c'était il y a une photo dans le livre, hein, c'était extrêmement émouvant de les voir se faire des tendresses. Et les autres vaches les recherchaient, parce que justement il y avait des individus pas très agréables, pas très sympathiques, il y avait des vieilles qui se tenaient à l'écart, qui s'intéressaient pas trop aux jeunes. Et donc ces vaches essayaient, c'est ma thèse, hein, essayaient de construire une société vivable, donc heureuse, ou tout au moins cherchaient du contentement. Et elles avaient donc tout intérêt, c'est le propre de toute société. La société, c'est une sorte de contrat social. J'abandonne certaines de mes libertés.
Pour vivre avec les autres.
Exactement. Et donc voilà comment se constituaient, non pas des pôles ou des clans, hein, mais simplement des flux d'amitié, de tendresse circulant pour le bien-être de tous.
Expliquez-nous par ailleurs le rôle que jouent ce que vous appelez les comportements synchrones et pourquoi ces comportements synchrones jouent un rôle majeur dans les sociétés animales, je ne sais pas, mais en tout cas dans cette société si particulière des blondes d'Aquitaine.
Alors, les comportements synchrones jouent un rôle essentiel chez nous aussi quand on marche au pas de l'oie ou quand on danse le tango. Quand on chante dans une chorale également, hein, ou quand on fait un ballet ou une danse collective.
Quand on agit au même moment de la même façon.
Exactement, ça suscite un certain enthousiasme, exaltation ou excitation. Et donc la synchronicité est en fait un puissant moment d'agrégation sociale. C'est Durkheim dans les fondements de la vie religieuse qui dit que les rituels religieux avec les percussions, les entrées en transe, etc. sont des puissants moments où la société fait preuve de son unité morale, pour reprendre l'expression de Durkheim.
Et c'est quoi ces comportements synchrones alors justement chez ces blondes d'Aquitaine, chez ces vaches?
Eh bien c'est de brouter, de brouter exactement en parallèle, c'est de s'allonger en parallèle. Une éthologue qui s'appelle Laurie Marino a fait une étude beaucoup plus complète, y compris un état de l'art sur le sujet, et a donc beaucoup développé cet aspect. Mais pour vous donner un exemple hors blonde d'Aquitaine, ce que j'ai vu dans un documentaire sur Arte qui s'appelait « Les poissons pas si cons », on voyait un danio, donc un petit poisson, on l'appelle aussi poisson zèbre, à qui on projetait sur la paroi de son aquarium, donc sans qu'il y ait contact chimique, l'image d'un autre poisson zèbre soumis à des convulsions et tombant au fond de l'eau pour rester immobile. Et le poisson sujet de l'expérience, observant cette image, s'est contorsionné, est également tombé au fond en restant immobile, par contagion. Alors, contagion visuelle, c'est ce que j'explique dans un chapitre, c'est ce qu'on appelle l'empathie corporelle. C'est-à-dire la capacité, par les comportements, enfin, la gestuelle, de pouvoir calquer sa gestuelle et de comprendre ce qu'il y a sous une gestuelle.
Vous écrivez, Florent Kohler, le troupeau commença à se comporter, à se mouvoir comme un collectif. Racontez-nous là aussi, j'allais dire, peut-être ce chemin, comment un troupeau devient un collectif.
Alors il devient un collectif, alors si on veut être tout à fait terre à terre, c'est le cas de le dire, c'est que le fait de brouter un champ implique une certaine économie, le fait de ne pas piétiner l'herbe à mesure qu'on la broute. Donc ça implique de
commencer par... C'est une organisation territoriale, voilà. Ça.
On commence par une partie du champ, par une extrémité du champ, on avance progressivement en rang vers la fin du champ, et là on revient à son point de départ, mais en longeant la clôture justement pour ne pas piétiner inutilement cette chose. Donc de toute façon, l'action de brouter est une action collective. Après, cette collectivité s'exprime aussi par le fait évidemment qu'elles ruminent toutes en même temps, elles font toute la sieste en même temps, et que j'ai observé des comportements, enfin des situations en brochette, c'est-à-dire une disposition de vaches alignées comme une brochette au moment de la sieste, ou d'autres qui, au contraire, étaient appelées par l'une, du genre de « viens avec moi, on va faire une bonne sieste », puis passant à une autre, demandant la même chose. Voilà ce que j'ai observé de comportement collectif. Bon, encore une fois, c'est 4 mois dans un troupeau voué à l'abattoir. J'ai pas pu observer de transmission culturelle sur des veaux, puisqu'ils leur sont enlevés à 3 semaines, donc c'était assez tragique, voilà.
On va monter alors en généralité avec vous, Florent Kohler, et écouter la voix d'un chercheur que vous avez déjà cité dans cet entretien, que nous avons reçu ici dans Questions du soir, l'historien Éric Baratet.
Depuis un siècle, nous vivons, la majorité des historiens vivent sur l'idée que l'histoire, c'est la science des hommes dans le temps. Cette définition avait été proposée donc il y a un siècle pour sortir de l'histoire de sa définition simplement politique événementielle. On a voulu en faire une science humaine au sens large du terme, qui pourrait dialoguer avec l'anthropologie, la sociologie, etc. Ça a été extrêmement profitable, mais je pense maintenant qu'il faut aller plus loin. On voit bien que l'histoire n'est pas réservée qu'à l'Occident, l'histoire n'est pas réservée maintenant qu'à l'humanité, il y a aussi des histoires ailleurs. Et donc, sortir de cette définition pour en faire une histoire des vivants, ça n'a rien de scandaleux. Je dirais même que c'est dans cette continuité d'ouverture.
L'histoire, c'est la science des hommes dans le temps, on le sait. On pourrait dire, je prends un risque, que la sociologie, c'est la science des hommes dans la société. Est-ce qu'il faut là aussi, en matière sociologique, à travers la discipline de la sociologie, tenter d'élargir le champ pour tenter d'en faire la science des vivants dans la société ?
Alors d'abord, Éric Baratet et moi, on marche dans la main depuis 15 ans. Hein. Donc ce qu'il fait pour l'histoire, j'essaie de le faire pour l'anthropologie et la sociologie.
C'est pour ça qu'on vous a invité justement voilà, à quelques semaines.
Le fond, c'est est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent être appliquées à des sociétés non humaines ? Et nos réponses sont évidemment oui. Donc ce que Baratet explique pour l'histoire, alors la sociologie c'est quoi ? C'est une société à un moment T de son histoire. Après elle peut croiser l'histoire, il faut toujours historiciser une société. Par exemple, rien ne dit que les éléphants tels qu'ils sont observés aujourd'hui à Amboseli par Cynthia Moss se comportent de la même manière que des éléphants d'il y a 300 ans. Donc malheureusement on n'a pas vraiment de profondeur temporelle. La sociologie doit s'extraire de sa focalisation sur le langage. Le langage, c'est pratique. Les humains sont des objets d'études qui parlent. Le sociologue parle, relate ses résultats en parlant, avec des mots, fait ses cours en parlant. Et donc, on a tendance à survaloriser l'importance du langage dans notre vie sociale, alors qu'en réalité, les moments où on tombe amoureux, les moments où on est en contemplation devant une scène humaine ou animale et autres, sont des moments sociaux. C'est ce que Durkheim appelle, pose comme objet de la sociologie les faits sociaux. Qu'est-ce qu'il entend par fait social ? Un moment d'interaction, par exemple un match de football ou un mariage, ou céder sa place dans le bus. Des moments d'interaction qui révèlent un certain ordre dans la société. C'est-à-dire que toute société est régie par une pression normative qui permet de respecter des normes et des usages, qui fait que la société n'est pas anomique. Bien. Donc, ces faits sociaux, ne sont pas limités à du langage. Dans mon livre, je donne l'exemple de céder sa place dans un bus en fonction de qui cède ou ne cède pas la place. Eh bien, il va y avoir des protestations générales ou au contraire, on va laisser faire puisque justement, c'est un infirme qui veut s'asseoir. Et ça, c'est du fait social. Ça révèle une norme, une normalité sociale qui est que dans un bus, on laisse sa place à une personne nécessiteuse.
Très bien, Florent Collard, mais si on laisse tomber le langage, en tout cas si on le met de côté pour un temps, comment est-ce que l'on mène des entretiens avec des animaux, par exemple, ou comment est-ce que l'on va au bout de la logique de l'observation participante, là encore avec des animaux? Est-ce que ça veut dire que là aussi, cette méthodologie, il faut la mettre un temps de côté et renouveler en profondeur les outils de la sociologie, ou ça veut dire simplement qu'il faut tenter à la marge de les transformer?
Pierre Verger, qui a passé 40 ans à Bahia à étudier les religions africaines au Brésil, disait que l'anthropologie, c'était pas forcément poser des questions et c'était pas forcément chercher à comprendre. Être en immersion, c'est être en immersion, c'est-à-dire
forcément chercher parvenir. À
comprendre. Non, de toute façon, qu'est-ce qu'on comprend à l'arrivée? Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, j'ai fait une étude sur les journalistes de France Culture. Et maintenant, ça y est, j'ai compris les journalistes de France Culture. Qu'est-ce que vous répondriez?
Je vous répondrai que vous avez un peu mieux compris les journalistes de France Culture. J'espère que ce sera le cas.
Exactement. Donc, pour Pierre Verger, et c'est étonnant, c'est que c'est un anthropologue qui a passé 40 ans sur le terrain, et non pas 3 comme on fait habituellement. Donc, comme Jade Goodall, 40 ans chez les chimpanzés, Barbara Smuts, 40 ans chez les babouins, c'est intéressant quand même. Eh bien, il s'est tout simplement fondu, a vécu avec les gens, a senti avec les gens, a éprouvé avec les gens, et donc, est entré dans la vie sociale. Mais pas la vie sociale de « je te raconte ma vie » ou « tiens, regarde comme il est beau mon rituel ». Il y a plein de choses dans la vie sociale. Des moments de bonheur, des moments de honte, des moments de chagrin. Et tout ça, ça existe dans toutes les sociétés. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser, à défaut de langage.
Comment est-ce que vous définissez une société animale? Est-ce que les grandes règles qui définissent les sociétés humaines, on peut transposer ces grandes règles pour comprendre ce qu'est une société animale?
Oui, alors je reviens juste ce que je viens de dire, les sociétés sans langage. Les animaux ont plein de langage, hein. C'est juste qu'ils parlent pas anglais. Ils parlent pas anglais ni français, ça, c'est ça qui pose problème en fait pour nous. Vous disiez donc...
Sur la définition d'une société animale, est-ce qu'on peut transposer les règles de la société humaine à la société animale?
Alors justement, on va parler ni de société humaine ni de société animale, on va juste parler de société. Une société, c'est le produit de l'évolution naturelle. Pas au moyen de la sélection naturelle. Donc, la vie sociale, c'est une forme de vie qui a tout autant de réalité que la vie organique et qui, de plus, survit aux individus qui la composent, qui sont, eux, des êtres biologiques et de simples véhicules des représentations et normes sociales. Donc, la vie en société... Elle est très, très ancienne, remonte, je sais pas, peut-être à 200, 300 millions d'années, même si c'est difficile de trouver des traces fossilisées. Mais la société s'est constituée en suivant des règles et une adaptation complexe qui est celle notamment du cortex préfrontal, qui est le siège de l'empathie, des neurones miroirs, de l'hippocampe, qui permet d'emmagasiner l'expérience et qui introduit des biais positifs ou négatifs, par exemple, de l'amygdale, qui est la source des émotions primaires, la peur, le dégoût, le stress, et puis de la glande surrénale, qui envoie des petits jets de cortisol. Mais les neurones miroirs, qui eux, pour le coup, sont neuronaux, des neurones, jouent un rôle essentiel, c'est la fameuse empathie. L'empathie, elle est à la fois corporelle et animique, si vous voulez, enfin, et mentale. C'est la même chose, en réalité. Les neurones miroirs, ils copient les actions et ils copient les humeurs.
Rappelez-nous, Florent Collard, qui est Diane Fosset, et racontez-nous ce que vous lui devez.
Alors, Diane Fosset, au début, je voulais pas la lire à cause du film qui a été fait, Gorille dans la brume, avec Sigourney Weaver, bon, je me disais... Et puis, j'ai fini par lire Gorille dans la brume. Alors, elle est partie sur un coup de tête, elle était éducatrice, elle est partie sur un coup de tête... dans ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre, pour y rencontrer Georges Schaller, qui étudiait déjà les gorilles à l'époque. Et tout emballée, elle s'est lancée sur le terrain à ses propres frais, sauf que c'était plus possible au Zaïre, elle est passée au Rwanda.
Pour étudier, observer la vie des primates.
Des gorilles. Et donc, elle a mis un temps fou à s'intégrer à la vie de ces groupes de gorilles, qui sont des groupes extrêmement pacifiques. Alors, soit je vous parle de Diane Fossé, soit je vous parle de ce qu'elle observe.
De Diane Fossé, parce qu'il nous reste une vingtaine de secondes.
Ok, alors on parle de Diane Fossé.
Est-ce que vous lui dites
Elle est devenue nous. C'est-à-dire, elle est le gorille, elle se percevait comme un nous. Et lire Diane Fossé m'a permis de comprendre plein de choses de ce que j'avais observé sur les vaches, notamment leur caractère paisible et le plaisir qu'elles prenaient à être ensemble.
Merci beaucoup pour ces explications, pour cet ouvrage également intitulé « Les sociétés animales » qui paraîtra dans quelques jours chez Armand Collin. Merci beaucoup, Florent Colleur.